Bosco, Douiman.
Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Certains responsables des partis politiques sont préoccupés par la distance obligée qui se doit séparer les permanences. 1000 mètres exigés, vous aurez les détails des lamentations des responsables des partis politiques dans une réunion hier avec le ministre de l'Intérieur. Et des habitants de la commune Niabitine en province de Ruyigui déplorent le manque d'électricité dans cette commune. Ils disent qu'il est difficile dans ces conditions d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Bouto Yvestine les a rencontrés. Et la formation féminine burundaise de basketball, les Gazelles, déclarée forfait pour le match contre APR du Rwanda dans les compétitions régionales de la zone 5 qui se déroule en Tanzanie. Elle devra aussi payer une amende de 4 000 $ pour n'avoir pas amené un médecin et un arbitre international. Voilà pour les quelques titres. Le développement de ces titres des habitants de la commune Niabitine en province Ruyigui déplore le manque d'électricité dans cette commune. Ils disent que par conséquent, il est difficile dans ces conditions d'entreprendre des activités génératrices de revenus nécessitant de l'énergie électrique. En outre, ils évoquent la fermeture des centres d'enseignement des métiers dépendant du courant électrique. Le conseiller social de l'administrateur communal Niabitine a fait savoir qu'ils ont déjà soumis ce problème aux autorités hiérarchiques et qu'ils sont en attente d'une réponse. Les détails avec Vestine Otoy.
Celle-ci est l'une des riverains de la commune Niabitinda, rencontrée tout près du chef-lieu de la dite commune, déplorant le manque d'énergie électrique dans cette commune. En observant au-dessus des toitures des infrastructures de cette localité, par exemple celle du bureau communal Niabitinda, on y voit des plaques solaires pouvant générer éventuellement de l'énergie solaire. Un des habitants de la commune Niabitinda dit que le manque d'énergie électrique handicape le développement communautaire.
Le manque d'hydroélectricité, c'est un handicap pour la recherche des revenus des ménages, donc pour donner l'emploi à la population et surtout aux jeunes chômeurs. Donc, c'est un frein pour le développement local.
Il ajoute qu'il y a même des sections dans des écoles des métiers dépendant du courant électrique qui n'ont jamais ouvert leurs portes suite à son manque d'énergie électrique.
Si on considère le volet éducation, les écoles d'enseignement des métiers ne fonctionnent pas. Les filières qui sont liées à l'utilisation de cette énergie hydroélectrique ne sont pas fonctionnelles.
Même si la situation est ainsi, le conseiller social et de l'administrateur communal Niabitinda fait savoir qu'ils avaient tenté d'élaborer un projet d'électrification de cette commune via les 500 millions francs de développement communal et que quand son projet parvenait au chef hiérarchique, ils ont été répondu que ça dépasse ses moyens et que c'est une affaire de l'État.
Les autorités hiérarchiques le savent déjà. Puisque dans l'année 2018, nous avions essayé de faire le projet afin que nous ayons cette électricité dans l'enveloppe de l'État de 500 millions que l'État octroie aux communes. Mais quand nous avancions ce projet, on a rejeté le projet en disant que l'État lui-même va intervenir pour donner cette électricité ici dans notre commune.
Le conseiller principal du gouverneur de la province de Ruyigui, Valérie Ngunzimana, tranquillise cette population en signalant que le projet d'électricité de cette commune est en cours et que bientôt ce problème sera résolu. D'autres communes qui ne sont pas encore électrifiées sont Kinyinya, Boeru et Gisuru, selon Valérie Ngunzimana.
Vestine Boutoyi, la formation féminine de basketball Les Gazelles, qui a représenté le Burundi dans les compétitions régionales de la zone 5 qui se déroule en Tanzanie, a été sanctionnée ce mardi d'un forfait pour le match contre APR du Rwanda et de payer une amende de 4 000 $. Le président de la Fédération burundaise de basketball dit que ces sanctions sont dues au fait que ce club n'a pas amené un arbitre international et un médecin. Austin Kararuza précise que la responsabilité revient aux dirigeants de l'équipe car ils savaient depuis longtemps les conditions de participation. Suivez-le au téléphone avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumana.
Ce qui a manqué, c'est la volonté, l'incompréhension des dirigeants du club Les Gazelles. Sinon, puisque les moyens ont été donnés à l'équipe Les Gazelles, notamment la présidente de la République avait donné une partie du financement de son voyage, l'arbitre et le médecin devraient faire partie de la délégation de l'équipe Les Gazelles.
La faute revient à qui?
Ça revient aux dirigeants du club Les Gazelles parce qu'ils étaient avertis depuis longtemps que sans arbitre, il y aura des amendes. Ils ont signé un document d'engagement depuis le début du mois de septembre, tout en sachant bien que l'arbitre international nommé par FIBA et le médecin devrait faire partie de cette délégation.
Mais quand la formation Dynamo a représenté le Burundi dans cette compétition était en ordre, pourquoi pas pour les Gazelles?
Ça dépend des dirigeants de chaque club. Donc si le club Dynamo a pu s'organiser pour amener le médecin, et je tiens à préciser qu'au niveau de l'équipe Dynamo, l'arbitre international n'a pas été nommé par FIBA parce qu'on ne dispose qu'un seul arbitre international au niveau de la fédération de basketball. Et il était déjà nommé pour l'équipe Les Gazelles. Donc il faut que les gens comprennent que l'équipe Dynamo n'a pas bénéficié de faveur de qui que ce soit. Eux, ils se sont bien organisés pour prendre le médecin avec eux.
Est-ce qu'après ce forfait, cette équipe Les Gazelles va continuer les compétitions?
Ça, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas sur le lieu des compétitions. Ça, c'est la gestion de FIBA et puis du chef de délégation de l'équipe Les Gazelles.
C'était Faustin Kararuza, président de la Fédération burundaise de basketball. Certains responsables des partis politiques sont préoccupés par la distance de 1000 mètres exigée par les administratifs entre une permanence et une autre. Ils l'ont exprimé ce mardi dans une réunion du ministère de l'Intérieur avec les responsables des partis politiques et les gouverneurs de province. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandaguié, a dit que la question relative à l'implantation des permanences devrait être résolue par l'administration locale et qu'il faut à défaut la transmettre au ministère de l'Intérieur. Elie Nibel Nibigira.
Ces acteurs politiques disent se heurter sur les obstacles des autorités administratives dans l'implantation de leur permanence. Le parti CNL déplore le comportement de certains administratifs qui empêchent ce parti de placer ses permanences là où il le souhaite, regrette Agathon Rwasa, qui en est président.
Sur cette intolérance politique, elle peut être causée parfois par le comportement des autorités quelconques comme elles peuvent l'éviter. Où est le problème si le parti quelconque souhaite placer sa permanence dans un espace quelconque? Où est vraiment le problème? Voilà la question que nous constatons par rapport à l'emplacement des permanences. L'administration ne nous facilite pas la tâche.
Ces propos du parti CNL sont également partagés par Jacques Bigirimana, président du parti FNL. Il parle d'obstacles et s'interroge d'où provient cette loi qui fixe une distance de 1000 mètres entre une permanence et une autre.
Il y a certaines choses qui contiennent des obstacles. Cette distance exigée entre une permanence et une autre. De quoi s'agit-il, Excellence, Monsieur le Ministre? On est par exemple interdit d'implanter notre permanence en face de celle du CNDDF DD alors que vous prenez pour une bonne cohabitation. Si vous nous invitez à une cohésion sociale, il faudra que nos permanences ne soient pas éloignées comme ça. On se prodiguera des conseils entre nous.
Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandaguié, trouve que cette question devrait être résolue au niveau des autorités locales. Pascal Barandaguié trouve cependant que cette distance de 1000 mètres est exagérée.
Qu'aucun parti politique ne se plaigne sur le manque d'espace pour implanter sa permanence. Si vous en parlez avec le gouverneur et que vous ne trouvez pas de solution, soumettez-le nous. Il n'y a pas 1000 mètres exigés. Non. Allez donc dans vos provinces et appréciez une distance équitable qui ne ferait pas qu'il survienne des confrontations en cas de réunion du même jour. Appréciez juste équitablement et d'une façon consensuelle.
Une réunion pareille avait été organisée le 26 septembre dernier.
Elie Nibel Nibigira. Également dans l'actualité, quatre journalistes et un chauffeur du groupe de presse Iwachu ont passé leur première nuit au cachot de la police à Bubanza, la nuit de mardi à mercredi. Les responsables de ce médium disent qu'ils n'ont pas encore été informés du motif de leur interpellation. Ils ont été arrêtés vers 13h de ce mardi alors qu'ils étaient à Musigati pour un reportage sur l'insécurité qui prévalait dans cette localité dans l'avant-midi de ce mardi. Le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique promet de s'exprimer après une réunion en cours à Bubanza. Un corps sans vie a été retrouvé ce mercredi matin dans les champs tout près de la 5e transversale à Gihanga dans la province de Bubanza. On ne sait pas encore pour l'instant les mobiles de cette mort, selon le chef de colline Muramata. dans la commune de Guihanga, qui affirme que cet habitant de cette colline, qui répond au nom de Hakizimana Désiré, a été tué par balle selon les traces trouvées sur son corps. Les sources administratives et policières à Guihanga disent que les enquêtes ont déjà commencé pour connaître les mobiles et les circonstances de cette mort.
Captez Isanganilo, écoutez la différence.
Environ 400 maisons construites par la Croix-Rouge en commune Guitéragny ont été officiellement remises aux vulnérables ce mardi. Dans une commune où l'on remarque encore beaucoup de maisonnettes en paille, dites blindées, l'organisation Croix-Rouge promet de nouvelles constructions. Le ministre en charge des droits de la personne humaine, quant à lui, en appelle à plus de solidarité locale. Dieudonné Zeyman.
Dans une maisonnette d'une chambre couverte de paille, on reste courbé, faute d'espace pour se tenir debout. L'autre tard pour ces maisons dites blindées ici à Guitéragny, ce que le propriétaire cherche où s'abriter quand la pluie tombe, témoigne une bénéficiaire de nouveaux logements, maison de trois chambres et salon couverte de tôle. Sur la colline Kigougou, une vulnérable rapatriée, mère de quatre enfants, venait de passer 4 ans dans ce genre de maison, filles et garçons dans une même chambre. Avoir un logement décent fait partie des preuves de la dignité humaine. Anselme Katinguruza, secrétaire général de la Croix-Rouge du Burundi, indigné de voir parmi les propriétaires de telles maisons certains des administratifs à la base, invite l'autorité locale à collaborer de nouveau avec les volontaires de la Croix-Rouge, identifier d'autres vulnérables, éviter que des gens continuent à vivre dans de telles conditions. Martin Nivyabandi, ministre en charge des droits de la personne humaine, tout en remerciant les partenaires avec des appuis concrets, invite les Burundais, les jeunes en particulier, à renouer avec la solidarité communautaire et d'annoncer tout jeune qui n'aura pas participé dans des actes de solidarité n'aura pas droit à une éventuelle assistance. C'est avec l'appui de la Croix-Rouge Luxembourg que la Croix-Rouge du Burundi a pu construire 390 maisons en commune Guitéragny. Guitéragny, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro.
Merci Dieudonné Nzeyimana, le bureau de la comptabilité de la commune de Wuhiga en province Karusi pourra être ouvert d'ici peu, dit le président du conseil de cette commune, ainsi que l'inspecteur des finances des communes de cette province. Après 9 mois de fermeture de ce bureau, ces derniers le disent en se référant sur la décision de la Cour anticorruption et de la lutte contre les malversations économiques acquittant Abdialimana Sophie, qui était accusé de vol d'une machine de son bureau et de l'avoir remplacé dans ses fonctions de comptable. Et les représentants des coopératives dont les membres exerçaient leurs activités dans les périmètres, qui jadis étaient exploités par la société Rugo Farm de la commune Rugombo, craignent des pertes énormes si le bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage ne leur donne pas une dérogation afin qu'ils puissent récolter le riz. Le vice-président de la coopérative Abadja Mugambi affirme que sa coopérative enregistrera des pertes de plus de 800 millions. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage affirme que la décision est irréversible et que ses propriétés doivent être cédées aux coopératives sanguines. Des messages de haine à peine voilés, sous des dehors de blagues et les insultes, sont généralement adressés à un groupe de gens plutôt qu'à une seule personne. C'est le point de vue du chercheur sur les aspects mémoriels. Aloïse Batungwanayo donne l'exemple du nom de Bizuru qui peut signifier au Burundi une personne laide. Il dit que pour reconnaître facilement ce genre d'insultes, l'on se met à la place du groupe visé pour sentir si les mots sont touchants et blessants. Ornella Mocho.
Les messages de haine peuvent provenir des insultes et ou blagues. Aloïse Watunganayo, le chercheur sur les aspects mémoriels, fait savoir que ces genres d'insultes sont dits par un groupe quelconque adressé à un autre groupe de gens.
Les insultes ou les blagues, surtout qualifiées de messages de haine, sont des mots, des phrases même, qui ont l'intention de déshumaniser un groupe de gens. Parce que les messages de haine ont pour but d'exclure, de déshumaniser un groupe de gens dans l'optique de pouvoir exterminer ou exclure complètement ce groupe.
Aloïse Batungwanayo donne l'exemple de certains mots dont Ibolo qui étaient donnés à un groupe de gens dans le moment de guerre.
Dans le cas du Burundi, il y a des gens dans certaines familles qui donnent les noms à leurs enfants comme Wizuru, en français tout simplement, je dirais aurait le nez épaté. Vizuru, ça dit grand, pour opposer à Kazuru, donc dit sympathique. Les parents qui donnent un nom pareil à son enfant, ils comparent son enfant à un membre d'un autre groupe. Le terme qui était utilisé les années 90, lorsqu'on disait Iboro, tout simplement, qui était une marchandise. Mais lorsque les violences de masse sont intervenues à mairie de Bujumbura, Iboro est devenu finalement une personne à abattre.
Selon ce chercheur, pour détecter ces mots, l'on se met à la place du groupe visé.
La première chose pour détecter cela, tout le monde doit être conscient de la dignité humaine. Il faut interroger le groupe cible, comment les membres de ce groupe se sentent lorsque on leur dit que voilà, ils sont des serpents, je ne sais pas, ce sont des bols ou des quoi. Et il faut leur poser la question, comment vous sentez-vous ? Et ils vont s'exprimer. Donc c'est là où tu pourras détecter, parce que c'est un sentiment d'agression pour le groupe visé.
Dans nos éditions ultérieures, le chercheur sur les aspects mémoriels parlera des conséquences dues aux insultes et aux blagues, ainsi que le rôle de tout un chacun pour éviter ce genre de mots.
Ornella Mucho, la capitale économique Bujumbura et ses environs sont privés d'eau depuis la matinée de ce mercredi. Le directeur commercial de la régie des eaux explique que cela a été dû à la panne des pompes utilisées pour distribuer l'eau à partir du lac Tanganyika. Anatole Nzinahora fait savoir que les services techniques de la régie des eaux sont à l'œuvre pour remédier à la situation. Suivez-le, il est au micro d'Evariste Nzikobanyanga.
Le message à communiquer, c'est que hier nuit, il y a eu une panne de certaines installations électriques ici au niveau de cette usine LAC. Et ces installations ont connu une panne, ils ont brûlé. Et maintenant, c'est eux qui donnaient le courant. Qui donnait le courant pour les pompes qui sont utilisées pour pomper de l'eau dans les réservoirs qui sont situés dans les hauteurs de la mairie de Bujumbura. Mais nos techniciens sont à l'œuvre pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et vous avez vous-même remarqué qu'ils sont en train de tout faire, de vérifier certains éléments des appareils qui n'ont pas brûlé.
Ça va prendre combien de temps pour que la population urbaine, citadine, puisse avoir de l'eau?
Nous espérons que d'ici dans l'après-midi, le problème sera résolu. Mais vous avez la technique, c'est la technique. On peut s'attendre toujours à des surprises, mais nous espérons que ça va aller.
En attendant, qu'est-ce que la population peut faire?
Vous savez, les Burundais savent s'organiser. Il y a ceux qui ont des réservoirs, d'autres qui ont des sources à côté de leur habitation. En attendant, ils vont tout faire pour s'approvisionner d'une manière ou d'une autre.
Voilà, c'était le directeur commercial de la régie des eaux, Anatole Nzinahora. Et en actualité internationale, ce sera pour boucler ce journal, le sommet Russie-Afrique débute ce mercredi. Plus de 40 dirigeants, dont les chefs d'État africains, notamment ceux d'Afrique du Sud, du Nigeria et de la Somalie et du Niger, assistent à la rencontre de Sochi. Ce sommet intervient à un moment où la Russie, qui consolide sa position sur la scène internationale, veut renouer avec le continent africain. La Russie espère retrouver l'influence qu'elle avait sur certains pays africains au début des années 90. Un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a montré qu'entre 2009 et 2013, la Russie a vendu pour 1,05 milliard de dollars de matériel militaire à l'Afrique. Aujourd'hui, le pays est désireux de diversifier sa coopération. Les mines et l'énergie sont en tête de liste de cette diversification. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie peut offrir son aide à l'Afrique sans les nombreuses conditions fixées par les puissances occidentales. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.